Vous écoutez On lit pour vous.
Mythe propagé sur les bâtiments anciens. Un texte de Clément Loca et Michel Letourneau, paru dans le guide annuel 2024. En restauration de maisons, les mythes se propagent parfois plus rapidement que la pourriture du bois. Démystifions-en quelques-uns. Les fenêtres anciennes n'offrent pas une bonne résistance thermique. Les fenêtres anciennes en bon état, munies de contre-fenêtres, offrent une résistance thermique équivalente à celle des meilleures fenêtres actuellement sur le marché, dont le verre. Et souvent, les fenêtres entières doivent être remplacées après 15 ou 20 ans. Leur remplacement cause une importante perte esthétique et patrimoniale à nos maisons anciennes. On trouve de ces fenêtres anciennes en parfait état qui ont atteint plus de 100 et même plus de 150 ans. On peut alors vraiment parler de développement durable. Note. Après des années d'entretien minimal, un travail de restauration doit souvent être entrepris à un coût bien inférieur au remplacement. Enlever les nombreuses couches de vieille peinture et le mastic effrité et repeindre à neuf, ce qui, par la suite, limitera au minimum l'entretien pour de nombreuses années. Il faut toujours peindre le bois extérieur pour le protéger des intempéries. La peinture ou la teinture opaque doivent être privilégiées pour des raisons d'authenticité et d'entretien, car les teintures et vernis ne protègent pas le bois des rayons UV et exigent un entretien très fréquent. Les matériaux sans entretien limitent le travail de maintenance et de réparation. Rappelons que ces matériaux qualifiés sans entretien sont en réalité sans entretien possible. Après 15 à 25 ans, ces matériaux qui se sont succédés sur le marché, que ce soit le papier brique, le masonite, le carton fibre pressée, l'aluminium, le vinyle, l'agrégat de faible qualité ou le bardeau d'asphalte, doivent être remplacés à des coûts de plus en plus élevés. Les matériaux durables comme la brique, la pierre, le bois et la tôle de métal pour les toitures auront une longue durée avec un entretien minimal et conserveront les qualités esthétiques du bâti ancien, sans compter l'évitement du gaspillage de matières premières. On observe des maisons de plus de 100 ans qui ont conservé tous leurs matériaux originaux. La peinture protège la brique vieillissante. La brique, tout comme la pierre, offre l'avantage de ne pas nécessiter d'entretien, à l'exception du jointement après plus de 75 ou 100 ans. Pourquoi la peindre? La peinture, dans une large majorité des cas, accélère le vieillissement d'une maçonnerie de briques car elle emprisonne l'humidité, la faisant fissurer. De plus, toute peinture se dégrade et se décolore et nécessite des travaux répétitifs d'entretien. Note. Lorsqu'une maçonnerie de briques a dû être réparée et des briques remplacées, il peut être justifié de la repeindre afin d'uniformiser la couleur. Il faut par contre s'assurer d'utiliser une peinture au latex appropriée pour la maçonnerie. Les revêtements extérieurs de tuiles en amiante ciment sont dangereux et nécessitent la décontamination de la maison ou sa démolition. Les revêtements composés d'amiante ciment, sous forme de losange ou de rectangle, installés au cours du XXe siècle, sont physiquement stables et sans danger. Leur conservation est encouragée et ils peuvent être peints. Leur présence n'affecte en rien la salubrité de la maison. L'enlèvement ou la réparation de ce type de revêtement doit se faire avec précaution. Le port d'un masque de qualité et le lavage séparé des vêtements s'imposent. Ce même argument est parfois utilisé à l'égard des panneaux de plafond suspendus ou des tuiles de plancher contenant de l'amiante, lesquelles doivent être enlevées avec précaution en évitant de les briser pour éviter que se libèrent les fibres d'amiante. Les maisons anciennes sont souvent infectées par des champignons. Cet argument est utilisé fréquemment par des promoteurs, des propriétaires et souvent même des municipalités pour justifier la démolition de maisons anciennes. Dans la très large majorité des cas, c'est pure foutaise. Les seuls cas très rares, mais préoccupants, sont les bâtiments affectés par la mérule pleureuse. Autrement, il peut y avoir dans les sous-sols une humidité favorisant le développement de spores ou une ventilation et un chauffage minimum régleront le problème. Il y a également les cas d'infiltration d'eau par la toiture ou de fuite d'eau du réseau de plomberie qui contaminent des composantes du bâtiment. Dans ces cas, la réparation des éléments à l'origine des problèmes et le remplacement des composantes détériorées seront la solution. La mise au jour de la pierre, de la brique ou des pièces de structure des murs à l'intérieur des maisons anciennes leur donne plus d'authenticité. Lors de la construction de ces maisons anciennes, la pierre, la brique ou les pièces de bois étaient couvertes de plâtre et ou de planches de bois posées à la verticale. Cependant, le manque de ressources financières pouvait retarder la pose du plâtre ou des planches. De nos jours, il s'agit d'un choix personnel. Les considérations liées au coût de chauffage, à l'exception des maisons en rangée en milieu urbain, et à l'authenticité, milite en faveur de la conservation ou de la remise en place des revêtements existants sur les murs après avoir réalisé des travaux d'isolation. Vous écoutez « Mythes propagés sur les bâtiments anciens », un texte de Clément Locat et Michel Letourneau, paru dans le Guide annuel 2024. Les planchers ou les plafonds légèrement inclinés doivent absolument être redressés. Les planchers ou les plafonds de maisons anciennes présentent à l'occasion de légères déformations. Des entrepreneurs et des architectes, surtout dans le cas des bâtiments publics, suggéreront de refaire les planchers à grands frais sans que ce soit réellement justifié. À moins de déformations importantes, tenter de rétablir une parfaite horizontalité peut s'avérer impossible et parfois très coûteux. Le problème provient souvent du support central des poutres d'un plancher qui s'est enfoncé. On peut alors tenter de rétablir la position initiale du plancher de quelques millimètres à la fois, sur une longue période, à l'aide de vérins. On peut cependant vivre dans une maison ancienne un peu déformée sans que cela cause de problème. Un bâtiment ancien abandonné sans chauffage est irrécupérable. Des bâtiments anciens, s'ils bénéficient d'une toiture étanche, ont souvent été remis en état après une dizaine d'années ou plus d'abandon. Les fortes structures de bois ou de pierre associées à l'absence d'isolant thermique les protègent contre les excès d'humidité causant la pourriture. Il est évidemment préférable de réhabiliter les bâtiments avant qu'ils ne soient abandonnés et ne se détériorent, mais ce n'est pas nécessairement une raison valable pour les démolir. Il est plus économique de démolir une maison ancienne et reconstruire à neuf plutôt que de la restaurer. Il y a des cas trop fréquents où des entrepreneurs en construction mal avisés recommandent à des propriétaires de démolir de solides maisons et de reconstruire à neuf plutôt que d'en rénover l'intérieur, par exemple. Ces entreprises conseille fréquemment de remplacer inutilement les fenêtres de bois en bon état, les galeries, etc. C'est une solution indéfendable et l'avantage économique concerne alors davantage l'entrepreneur que le propriétaire. On a tous observé des cas de solides maisons construites de matériaux nobles remplacées par de nouvelles maisons couvertes de vinyle et de bardeaux d'asphalte. La restauration d'une maison est plus exigeante en main-d'œuvre, mais moins coûteuse en matériaux. C'est une solution économique avantageuse, sans compter que ce geste s'inscrit dans l'objectif de développement durable et de préservation du caractère de nos milieux de vie. La maison n'est pas patrimoniale parce qu'elle n'est pas classée. Voilà le dernier argument utilisé par des propriétaires, des promoteurs ou des élus municipaux qui désirent démolir une maison ancienne sans raison valable. Toute maison ancienne ayant conservé des éléments qui la caractérisent, tels le volume, les matériaux de revêtement, les détails architecturaux, la fenestration, etc., est un immeuble patrimonial. L'originalité ou la richesse architecturale et la valeur historique du bâtiment contribuent à lui attribuer une valeur particulière. On a vu récemment le cas de promoteurs qui, par ignorance ou intérêt, affirment tout haut que les bâtiments anciens qu'ils désirent démolir ne sont pas patrimoniaux, même si les spécialistes en ont déjà clairement établi la valeur. En réalité, la meilleure pratique pour la conservation des maisons anciennes est l'entretien préventif régulier par les retouches de la peinture, le jointement des murailles de briques ou de pierre et la vérification de la toiture. Ces interventions éviteront des travaux majeurs et coûteux qui entraîneront le remplacement des matériaux d'origine. C'était « Mythe propagé sur les bâtiments anciens », un texte de Clément Loca et Michel Letourneau, paru dans le Guide annuel 2024.
Sel, sable, gravillon, comment déglacer son entrée? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 21 février 2025, dans La Presse. Quelle est la façon la plus écologique de déglacer son entrée? Demande Louise, une lectrice. Au milieu de l'hiver, lorsqu'il y a une patinoire de plusieurs centimètres d'épaisseur devant chez soi, sur ses marches d'escalier ou dans son allée, déglacer devient une question de sécurité cruciale pour éviter les accidents. Dans les quincailleries, de nombreux produits s'alignent sur les tablettes, promettant un déglaçage rapide, efficace, et prétendument peu nocif pour l'environnement. Comment s'y retrouver? Le problème des ions chlorure. Le produit auquel on pense d'emblée pour déglacer, c'est le sel ou chlorure de sodium, NaCl, qui est le même que le sel de mer ou de table. C'est d'ailleurs celui qui apparaît en premier lorsqu'on cherche à acheter un produit déglaçant en ligne. Au contact de la glace, le sel se dissout et abaisse la température à laquelle l'eau gèle. S'il ne fait pas trop froid, entre 0 et moins 10 degrés Celsius environ, la glace ainsi salée se met alors à fondre. D'autres sels font fondre la glace lorsqu'il fait encore plus froid, comme le chlorure de calcium, CaCl2, ou encore le chlorure de magnésium, MgCl2. Le problème, c'est qu'en grande quantité, tous ces sels à base d'ions chlorure peuvent avoir un effet corrosif sur les infrastructures, routes, béton, structures en métal, aqueducs, égouts, mais aussi un impact considérable sur l'environnement. Source, ministère des Transports et de la Mobilité durable, et rapport du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, février 2024. Environ 1,5 million, nombre de tonnes de sel de voirie répandues annuellement au Québec, soit l'équivalent des 2/3 du volume du Stade olympique de Montréal. 9,4%, proportion des échantillons prélevés dans des cours d'eau au Québec dépassant les seuils de qualité de l'eau pour les ions chlorure. Il s'agit presque toujours d'échantillons prélevés dans des zones urbaines ou agricoles. Car, au contact de la glace, ils se dissolvent et libèrent dans l'eau des ions chlorure, Cl-, qui sont toxiques pour la faune et la flore. Cette eau salée ruisselle ensuite vers les cours d'eau avoisinants, ce qui peut nuire aux écosystèmes. Différentes options écologiques. La première approche, c'est la prévention, souligne Jean-Denis Brassard, professeur au Laboratoire international des matériaux anti-givre de l'Université du Québec à Chicoutimi. Avant même d'épandre quoi que ce soit, dans l'idéal, mieux vaut d'abord pelleter la neige qui recouvre la glace. Plus tôt cela sera fait, après que la neige est tombée, moins elle sera difficile à pelleter, moins la couche de glace sous-jacente sera épaisse, et plus il sera facile de s'en débarrasser. Ensuite, une première option pour remplacer les sels pourrait être d'utiliser du sable ou du gravillon. Avec ceci, l'objectif n'est pas vraiment de faire fondre la glace, c'est de la rendre rugueuse, donc moins glissante. Mais s'ils sont utilisés seuls, ce sable et ce gravillon risquent de partir au moindre coup de vent. Ils sont aussi plus salissants que le sel et peuvent abîmer le plancher. Une autre option est d'utiliser des sels dits biodégradables, c'est-à-dire sans ions chlorure, comme le formate de potassium ou l'acétate de calcium-magnésium. Ces sels sont tout aussi efficaces que les sels classiques, mais ils sont plus chers, donc moins attractifs pour le consommateur. Et ils sont plus difficiles à trouver pour le grand public, souligne Jean-Denis Brassard. Il existe également des déglaçants à base d'urée. Mais l'urée n'est pas complètement inoffensive. Si elle est utilisée en grande quantité et toujours au même endroit, cela peut finir par endommager le béton ou les plates-bandes. Et c'est beaucoup moins efficace que le sel, précise Marc Olivier de l'Université de Sherbrooke, chimiste spécialisé en environnement et en gestion des matières dangereuses. Enfin, certains utilisent parfois des abrasifs naturels, comme le marc de café. Utilisé chaud, ce dernier adhère à la glace, mais il peut être salissant, souligne Jean-Denis Brassard. Verdict. Selon les deux experts, la meilleure façon de déglacer son entrée serait d'épandre sur la glace formée du sable, voire du gravillon pour mordre la glace, et d'ajouter si nécessaire une petite quantité de sel biodégradable pour attaquer un peu la glace et permettre au sable ou au gravillon de rester en place. Mettre du sel de façon préventive peut être tentant, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme, indique Jean-Denis Brassard. Quel que soit le produit qu'on finit par adopter, l'important est de l'utiliser au bon moment et dans les bonnes quantités, signale Anthony Côté-Leduc, chargé de communication chez Équiterre. Car de manière générale, la meilleure façon de faire d'un point de vue environnemental, c'est toujours de réduire à la source au maximum, rappelle-t-il. Une question d'échelle. Il n'existe pas d'études sur l'impact de ces sels lorsqu'ils sont utilisés à petite échelle, comme c'est le cas pour une entrée de maison. Habituellement, les scientifiques se penchent plutôt sur l'impact des sels épandus par une municipalité à l'échelle d'une ville, par le gouvernement sur une autoroute, ou encore par des entreprises privées dans des stationnements. Chaque fois, la quantité de sel utilisée par les particuliers n'est pas considérée. Les municipalités et les gouvernements mettent en place, à diverses échelles, des initiatives pour tenter de limiter leur empreinte sur l'environnement lorsqu'il s'agit de déglacer les routes. Plusieurs villes du Québec, comme Saint-Hyacinthe, ont déjà pratiquement banni le sel de déglaçage sur leur route. C'était « Sel, sable, gravillon, comment déglacer son entrée », un texte de Chloé Bourquin, paru le 21 février 2025 dans La Presse.
Quoi savoir en vue de votre renouvellement hypothécaire? Un texte de Clémence Pavic, paru le 13 février 2025 dans Le Devoir. Si, comme plus d'un million de Canadiens, vous vous apprêtez à renouveler votre prêt hypothécaire cette année, voici quelques suggestions d'experts pour vous aider à prendre une décision éclairée et limiter le choc des hausses de paiement. Bien sûr, cela vaut aussi si vous souscrivez à un nouveau prêt. S'y prendre d'avance. Le premier conseil et le plus important, c'est de ne pas s'y prendre à la dernière minute, lance d'emblée Ryan Lay, courtier hypothécaire chez Planiprêt. Au lieu de faire l'autruche jusqu'aux dernières semaines avant la fin de votre contrat, mieux vaut commencer à y penser entre 4 et 6 mois à l'avance, le temps de considérer les meilleures façons d'atténuer le choc au niveau des paiements, suggère le courtier. Véronique Caron, courtière hypothécaire chez Multiprêt, abonde dans ce sens. Le plus tôt possible, il faut regarder l'effet des hausses de taux d'intérêt sur votre budget pour ne pas être pris au dépourvu. Même si les taux d'intérêt ont bien baissé dans la dernière année, ils restent tout de même supérieurs à ce qu'ils étaient durant et même avant la pandémie de COVID-19. Si vous trouvez un produit assorti d'un taux qui correspond à vos besoins, réservez-le. Les institutions financières offrent généralement de geler un taux entre 90 et 120 jours. Cela vous permet de vous protéger d'une éventuelle hausse des taux durant cette période. Si, à l'inverse, les taux baissent, vous pourrez toujours choisir un autre taux, car vous ne serez pas lié. De plus, si votre institution bancaire actuelle ne vous offre pas les meilleures options disponibles sur le marché, il est tout à fait possible de changer de prêteur lors du renouvellement, rappelle Damien Charbonneau, cofondateur et chef des opérations chez Nesto, un prêteur hypothécaire en ligne. Attention, c'est un processus qui peut prendre plusieurs semaines. Il faut préparer l'application, soumettre les documents justificatifs et prendre rendez-vous avec un notaire, énumère-t-il. Or, les notaires sont généralement très occupés durant le sommet de l'été. Une raison de plus de s'y prendre tôt. Taux fixe ou taux variable. Le choix entre un taux fixe ou un taux variable dépend du style de vie de chacun et de la capacité à vivre avec le risque, rappelle Véronique Caron, selon qui il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a des gens qui vont trouver ça très angoissant de ne pas savoir si leur taux pourrait monter ou descendre. Dans ce cas-là, c'est peut-être une meilleure idée pour leur bien-être mental de prendre un taux fixe, fait valoir M. Charbonneau. Quelles sont les différences? Si vous optez pour un taux variable, celui-ci pourrait fluctuer à la hausse ou à la baisse selon les décisions de la Banque du Canada sur le taux directeur. Généralement, les prêteurs calculent leur taux préférentiel en prenant le taux directeur et en y ajoutant 2,2 points de pourcentage. Si vous optez pour un taux fixe, celui-ci restera le même durant toute la durée de votre contrat. Contrairement aux taux variables, les taux fixes ne sont pas directement influencés par chaque décision de la Banque du Canada sur le taux directeur. Toutefois, ils sont étroitement liés au rendement obligataire, qui reflète l'orientation du taux directeur à long terme. Dans une entrevue au Devoir en janvier 2025, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, mentionnait que « toutes les portes sont ouvertes concernant les taux d'intérêt ». Sur fond de tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada, M. Macklem n'était pas en mesure de donner d'indications prospectives sur les taux d'intérêt parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Actuellement, le taux directeur de la Banque du Canada se situe à 3 %. Dans une étude publiée cette semaine, les économistes de Desjardins soulignent que le taux directeur pourrait descendre jusqu'à 2 % au troisième trimestre de 2025. Surveillez les autres conditions. Généralement, les emprunteurs accordent une très grande importance à l'idée de magasiner le meilleur taux disponible, quitte à faire abstraction des autres conditions d'un prêt, pourtant tout aussi importantes. Il y a plusieurs choses à surveiller. Le taux, les pénalités, la transférabilité et les options de prépaiement. C'est-à-dire, est-ce que je peux accélérer les paiements? Explique Damien Charbonneau. Les pénalités correspondent au montant d'argent qu'il faudra payer si l'on choisit de mettre fin au contrat avant la date prévue. En ce qui concerne la clause de transférabilité, celle-ci fait référence à la possibilité de transférer son hypothèque pour une nouvelle propriété. Par exemple, si vous prévoyez que la famille s'agrandira et que vous pourriez avoir besoin de vendre votre maison pour une autre un peu plus grande avant la fin de votre terme, ça peut s'avérer très utile, souligne Mme Caron. Si votre contrat ne vous permet pas de faire un transfert, il faudrait alors payer les pénalités qui s'appliquent pour une résiliation de contrat et un remboursement anticipé. Les gens mettent aussi beaucoup l'accent sur les options de prépaiement, mais ils les utilisent très peu, note M. Charbonneau. Ce sont de belles intentions de vouloir payer son hypothèque plus rapidement, mais il faut se demander quelle est la meilleure utilisation de son capital. Si on a un montant d'argent excédentaire, n'est-il pas préférable de le placer à la bourse, par exemple? Prolonger l'amortissement. Si l'augmentation de vos paiements hypothécaires s'avère insoutenable, il faut considérer l'idée d'étaler vos paiements sur une plus longue période pour amoindrir le choc, dit Ryan Lay. Durant la pandémie, beaucoup de gens ont opté pour les paiements accélérés toutes les deux semaines. Déjà, on pourrait opter pour le paiement par mois pour réduire la somme annuelle à rembourser, suggère le courtier. Si cela ne suffit pas, on peut prolonger la période d'amortissement du prêt. Certes, ça peut être un peu démotivant et au final, on paiera plus d'intérêt. Mais on a beaucoup entendu dire que les gens allaient perdre leur maison parce qu'ils ne pourraient plus payer. Ce n'est pas vrai. Ils devront simplement faire des choix, dit M. Lahaye. Mme Caron rappelle aussi que le prolongement de la période du remboursement n'est pas coulé dans le béton. On peut très bien allonger la période d'amortissement si on traverse une période plus difficile et décider de la réduire au prochain renouvellement une fois que la situation financière est rétablie, expose-t-elle. Consolider ses dettes. Si vous avez accumulé des dettes de consommation, celles-ci sont souvent assorties de taux d'intérêt plus élevés que votre taux hypothécaire. Il est possible d'intégrer ces dettes à votre prêt hypothécaire pour les amortir sur une plus longue période et réduire ainsi vos paiements mensuels. Il peut arriver des imprévus, par exemple une perte d'emploi ou un congé de maladie prolongé, qui affectent à la baisse nos revenus et qui font en sorte qu'on s'est endetté, note Mme Caron. Encore une fois, c'est peut-être moins bon mathématiquement sur le long terme, mais ça peut soulager votre budget et éviter que vous vous endettiez davantage, ce qui serait la pire des choses, souligne quant à lui M. Lahaye. C'était « Quoi savoir en vue de votre renouvellement hypothécaire », un texte de Clémence Pavic, paru le 13 février 2025 dans Le Devoir.